France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Clémentine Goldsall. J'ai lu récemment mon premier écrit et ce que j'ai aimé, c'est cette alternance entre des passages très théoriques où on apprend plein de choses sur la néonatologie et puis d'autres passages vraiment poignants où on découvre des parcours assez inimaginables pour ces petits bébés et leurs parents.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Commence aujourd'hui par une béance. Le nouveau-né n'est pas un être de fiction. Il n'a qu'à de rarissimes exceptions acquis la dignité d'un personnage littéraire. Aucun de nous ne pouvant dire ce qu'a été l'expérience des premières semaines de la vie, le nourrisson n'étant pas doué du langage, comment parler de celui qui ne peut pas parler en son nom ? Qu'est-ce que les bébés auraient à nous dire s'ils pouvaient se raconter ? Partant de cette interrogation, la journaliste Clémentine Goldsall a décidé d'y répondre avec ses outils, ceux de l'observation. Munie de ses yeux, de ses oreilles et d'un carnet de notes, elle a passé 6 mois au sein du service de néonatologie de l'hôpital Necker à Paris, avec l'espoir de trouver là quelques vérités sur ses premiers jours d'humanité. Premier cri est le titre de son premier livre, compte rendu de cette enquête, elle est notre invitée. À 15h50, comme chaque mercredi, il est question de littérature jeunesse dans cette émission. Raphaël Bott viendra nous parler d'un album documentaire qui s'appelle La naissance du Nil. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouerons à trouver de la musique dans un livre pour mieux nous quitter en chanson. Vous avez le programme. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bienvenue et bonjour à vous, Clémentine Goldsall.
Bonjour Mathilde.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce livre. Premier cri, c'est donc son titre. Il a paru aux éditions du Seuil. Et je le disais, c'est aussi votre premier livre, votre tout premier livre. On est d'autant plus heureuse de vous accueillir pour en parler. Nous qui lisions déjà vos écrits de journaliste littéraire, un métier que vous pratiquez, au sein du magazine Elle, notamment, où l'on peut lire de vous des critiques, des entretiens, des reportages en lien avec cette vie littéraire qui nous occupe aussi ici au Book Club. On va plonger dans un deuxième moment de cette rencontre dans la matière de ce texte, de ce livre. Mais pour commencer au Book Club, vous le savez peut-être, on a pour habitude de faire d'abord le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs, des lectrices. On imagine, de par votre profession, que la lecture occupe une certaine place dans votre vie. Est-ce que vous vous souvenez quand, comment, dans quel paysage vous avez appris à lire ?
J'y ai pensé avant de venir parce que j'écoute l'émission et je me disais que pas vraiment en fait. J'imagine que j'ai appris à lire à l'école tout simplement. J'ai du mal en fait à me souvenir d'un temps où je ne lisais pas. Voilà.
Donc, et alors les lectures les plus anciennes, ce serait quoi les plus anciens souvenirs
de moi lisant moi-même
De livres qu'on vous a lus.
Ah, de livres qu'on m'a lus. On me lisait des histoires quand j'étais petite, j'imagine. Mais ça, pareil, j'ai pas non plus de souvenirs hyper prégnants, à part que mon père me lisait un grand livre de mythologie grecque. Bon. Mais que j'aimais bien. Et ensuite, je me suis assez vite quand même mise à lire moi-même. Et j'ai lu beaucoup, très vite, je crois, quand même. Je lisais beaucoup de livres de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte. Donc, j'adorais les chevaux, comme plein de petites filles. Donc, je lisais L'étalon noir et toutes ses déclinaisons.
Ça me dit quelque chose, L'étalon noir, ouais.
Je lisais Le Club des Cinq. Et en fait, assez vite, j'ai lu aussi, je sais pas pourquoi, je me suis passionnée pour les livres, les romans sur l'Égypte antique. Donc, je me souviens de lire, en fait, j'avais un grand-père que j'adorais qui me passait des livres qu'il lisait. Donc, je lisais, j'étais petite et je lisais des très gros livres. Il y a des photos de moi petite avec des très gros livres. Notamment un livre de Pauline Gedge qui s'appelait La Reine du Nil sur Hatshepsut. La pharaone, voilà, je sais pas, j'ai eu un délire Égypte ancienne.
Dans le livre qui va nous occuper aujourd'hui, il y a un passage assez drôle où vous racontez comment, en différents moments de votre vie, notamment des moments douloureux, la littérature, les livres vous sont un secours. Vous dites, chagrin d'amour, je vais vers Barthes, on imagine les fragments d'un discours amoureux. La vie sociale qui pèse, je vais vers Edith Wharton. La présence d'un deuil dans ma vie, je vais lire John Didion. Ou si j'ai des cauchemars qui m'assaillent, je vais les confronter chez Stephen King. Est-ce que ça veut dire que cette espèce de manière de se réfugier dans la fiction, c'est pour vous la place qu'occupe la littérature dans votre vie ? Et est-ce que ça remonte à loin ?
Je crois que ça remonte à très très loin et que c'est non seulement un refuge mais une sorte de barrage contre le monde en fait et effectivement quand je vois ces photos de moi lisant dans une atmosphère familiale et tout ça, je me dis qu'il y a quelque chose quand même de très très antisocial aussi dans la lecture, ce qui est ironique parce que c'est très valorisé en fait chez les enfants, on a tous envie que nos enfants lisent et tout, et en fait je pense que d'arracher un enfant à un livre, c'est aussi difficile que d'arracher un enfant à sa console
Et que peut-être quand ils vont lire, ils vont aussi loin de nous en tant que
exactement,
parents.
Ouais, ils sont tout à fait proches. Loin et c'est un refus aussi quand même quelque part de participer à la vie sociale. C'est pas grave, hein, moi je m'en excuse pas du tout, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que je fais qui n'appartient qu'à moi et que je fais pour moi et qui effectivement m'isole la plus grande partie de la journée, quoi. En fait, c'est mon travail, c'est devenu mon, j'en ai fait mon travail, donc c'est tout à fait légitime, c'est même rémunéré. Mais en réalité, je pense que c'est un peu névrotique, oui, à un certain endroit.
Et comment ça s'est passé, cette bascule, de décider que de ce qui était, on le comprend à vous écouter, un plaisir, vous alliez faire votre travail? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit « j'aimerais bien que les livres, ils occupent aussi une place prépondérante dans ma vie professionnelle ?»
Pas du tout, parce que j'ai fait des études un peu dilettantes. En fait, j'ai fait une licence d'histoire, mais je travaillais en même temps. J'étais vraiment pas très assidue. Je faisais des babysitting en fait, chez une femme qui s'appelle Pascale Frey, qui était critique littéraire à Elle, et qui un jour m'a dit « mais tu lis tout le temps, pourquoi tu viens pas faire un stage à Elle ?» Et je suis entrée en stage au magazine Elle, dans le service livre d'Olivia de Lamberterie, et je suis jamais partie.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que quand qu'on a profession d'être critique littéraire, c'est-à-dire qu'on doit, pour le travail, lire un certain nombre de livres par an, on arrive à garder une forme de plaisir dans la lecture? Parce que le travail et le plaisir, ça peut être lié, mais c'est pas toujours lié.
C'est la grande question. Plaisir, oui, parce que les livres... J'ai la chance, en fait, à Elle, on fait très peu de mauvaises critiques. Donc l'idée est quand même plutôt de trouver des choses qu'on aime et de les recommander. Ce qui, par ailleurs, moi, me semble une bonne aussi direction, quoi, pour quand on a envie de parler de littérature et qu'on a peu de place dans la presse écrite. Donc plaisir, oui. Ensuite, il y a une dimension obligatoire. Il y a beaucoup de livres que je commence et que je continue pas, mais j'ai quand même lu 200, 300 pages et c'est du temps... Parfois, l'impression vraiment de perdre mon temps et que la vie est très courte. Et puis, oui, je trouve beaucoup de plaisir. Là, je suis en train de lire le prochain livre de Chimamanda Ngozi Adichie qui sort chez Gallimard en mars et j'y prends beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai des grands regrets. Je me dis, est-ce que j'ai pas lu tout Dostoïevski et je suis en train de lire Chimamanda Ngozi Adichie. Bon, c'est ma vie.
Si on parcourt les rayonnages de votre bibliothèque, est-ce qu'il y a des auteurs, outre ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui occupent comme ça une place vraiment très importante dans les rayons? Est-ce qu'il y a des auteurs dont, pour le coup, vous avez vraiment tout lu?
Il y en a, oui. Effectivement, outre Stephen King, où je pense que j'ai tout lu, je lis beaucoup de littérature anglo-saxonne. Donc ça, c'est une énorme place. Donc Jay McInerney, James Salter, Dorothy Parker... Lauren Groff, ça vraiment c'est des auteurs, Raymond Carver, c'est des auteurs qui sont très chers à mon cœur. Et puis j'ai aussi énormément lu et je continue, mais j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai lu exclusivement, quasi exclusivement sur la Shoah. Donc j'ai un grand rayonnage aussi Shoah. ce qui m'a, donc Charlotte Delbault, Robert Antelme, David Rousset, je voulais faire à un moment un mémoire de maîtrise sur David Rousset, qui a écrit sur l'univers concentrationnaire. Donc ça, j'ai eu un grand moment là, de ça. Et puis je me suis mise en fait aussi à un moment, et je continue en fait maintenant, je lis aussi beaucoup, beaucoup de non-fiction. Donc des essais et aussi de la non-fiction américaine. Leslie Jamison, que j'aime énormément. Il y a des autres, David Gran, Patrick Radonkiff. En fait, il y a toute une sorte d'école comme ça de non-fiction américaine qui écrit notamment dans les pages du New Yorker et du New York Times, que j'aime énormément.
C'est une question que je voulais vous poser parce que le livre dont on va parler aujourd'hui, il se situe d'une certaine manière dans cette lignée-là, qu'on appelle aujourd'hui en effet la non-fiction, qui vient c'est la transcription d'un terme américain, non-fiction, qui désigne comme ça cette espèce de continent d'une littérature du réel qui a été exercée notamment par des journalistes dans les premiers temps. Est-ce que les auteurs que vous avez cités là ou d'autres ont été aussi comme ça pour vous des sources d'inspiration? Est-ce que c'était des livres de chevet aussi pendant l'écriture de ce livre?
Je ne les ai pas lus pendant que j'écrivais parce que pendant que j'écrivais, je lisais des choses sur le sujet. Donc je lisais des choses, des livres, beaucoup de livres un peu techniques sur les nouveau-nés et la néonatologie. En revanche, je les avais vraiment bien en tête, quoi. J'avais en tête, en fait, avant de commencer, j'avais en imagination un petit peu ce que je voulais faire, qui était cette forme un petit peu hybride où on pouvait, dans mon idée, tout se permettre. Voilà. On pouvait être à la fois très 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 sérieux dans le reportage et on se devait de l'être. Donc il fallait qu'il y ait des faits, il fallait qu'il y ait du reportage et on pouvait aussi, à l'aide justement de ce jeu qui est intime,
J-E,
mais qui est intime dans une dimension qui restait à définir, on peut se dire « tiens, ça me fait penser à ça ». Et aller sortir Hannah Arendt des étagères et aller la convoquer en fait pour nous aider à penser.
Et s'autoriser aussi des formes de digression et de suivre le cheminement de sa propre pensée. On va y revenir, mais le livre qui donc nous donne l'occasion de vous recevoir aujourd'hui, Clémentine Goldsall, il est habité, je le disais pour commencer, par cette espèce de béance, de trou, qui est l'absence quasi totale de personnages de nouveau-nés dans la fiction, dans les représentations en général, mais singulièrement peut-être dans la littérature. Est-ce qu'il y a quand même des contre-exemples qui ont été importants pour vous? Vous en citez certains dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette galaxie littéraire-là?
Elle est toute petite. Le très grand contre-exemple, c'est Marie Darrieussecq, dont j'aime énormément toute la littérature, mais particulièrement la non-fiction. Il me semble justement que c'est une des autrices en français, et peut-être le fait qu'elle soit aussi traductrice de l'anglais n'est pas étranger à son maniement de cette forme un petit peu qui nous est un petit peu exotique. Le bébé de Marie Darrieussecq, c'est un texte que j'ai lu beaucoup dans ma vie, que j'ai lu assez tôt. Je pense que justement, c'est Olivia de Lamberterie qui avait dû me le recommander. Et je l'ai lu, je l'ai beaucoup offert à mes amis qui avaient des enfants avant que moi j'en ai un moi-même. J'ai pensé à un moment, je voulais, en fait, dans mon document de travail, mon livre s'appelait L'ultime lieu du scandale, qui est un emprunt à Marie Darrieussecq, justement, qui dans Le bébé dit que l'idée en Occident que les nouveau-nés puissent être mortels, c'est l'ultime lieu du scandale. J'aimais beaucoup cette idée-là.
Phrase que vous citez en exergue.
Exactement,
hein, de votre texte.
Ouais. Donc elle, c'était vraiment le phare. Et ensuite...
Texte paru en 2001, par ailleurs, je crois. Oui. Hein, tout début des années 2000, chez Powell. Ouais.
Et ensuite, à mesure que je travaillais, donc je cherchais à la fois de la ressource intellectuelle, et puis je me disais, bon, bah, il doit bien en exister quand même des nouveau-nés protagonistes. Donc je demandais partout autour de moi, tous les gens que j'interviewais, tous les gens que je croisais, je leur disais, est-ce que tu as lu un truc avec un nouveau-né protagoniste? Et on me disait, ah non, pas trop. Bon, je cherchais sur Internet et tout, et je suis tombée sur deux textes très étranges. Un roman de François Weyerganz, l'écrivain suisse, qui a écrit un livre du point de vue d'un fœtus, un peu surdoué. Mais en fait, il en fait un homme miniature, en fait. Donc, ça correspondait pas à ce que je cherchais. Et un texte de Pascal Bruckner, qui est plus là dans la tradition. Ouais, très surprenant, franchement. Pascal Bruckner, bon. Dans la tradition, mais en fait, de cette légende juive des fœtus savants. Et du fœtus qui, en fait, il y a une tradition juive de pensée qui dit on sait tout dans le ventre de la mère. Et quand on sort, au premier souffle, on oublie tout et le bien et le mal nous apparaissent. Donc il y a aussi ce roman de Pascal Bruckner, mais c'est des romans pour l'un comme pour l'autre, enfin que moi je considère extrêmement mineurs et qui n'ont pas du tout rassasié mon envie d'avoir des nouveau-nés protagonistes.
Et qui par ailleurs du coup s'intéresse aussi au fœtus, ce qui est pas exactement la même chose que le nouveau-né, ce qu'on comprend parfaitement, ce qui est l'un des axes de réflexion aussi de votre livre, précisément la différence entre voilà l'être quand il est dans le ventre de sa mère biologique, et puis ce qui se passe après. On va aller vers votre livre à vous, donc, Clémentine Goldsall, et pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute cette chanson de Camille, elle s'appelle « Wet Boy ».
More water to the ground, more water to the child.
Tout commence ici par une histoire d'interprétation. Vous émerveillant d'entendre chez votre fils tout juste né d'adorables gémissements qui vous semblent ressembler au miaulement d'un chaton, vous ne réalisez pas qu'ils sont en réalité des gémissements, le signe en néonatologie d'une détresse respiratoire. L'histoire se terminera sans dommage, mais l'expérience vous marque, Clémentine Goldzahl. Ainsi, vous n'avez pas su lire votre enfant. Le langage exprimé par son corps vous était resté langue étrangère. C'est dans cette expérience initiale que vous ancrez la manière dont s'est construite pour vous l'envie de vous pencher sur l'être nouveau-né, envie renforcée, redoublée par un constat qui ne cesse de vous étonner. Si peu nombreux sont les récits qui en font un véritable personnage. Vous décidez alors de vous saisir des outils qui sont les vôtres, ceux du journalisme, de l'enquête, et d'aller passer 6 mois au sein du service de néonatologie de l'hôpital Necker à Paris. Pour regarder ces très jeunes malades dont la fragilité est paroxystique, pour regarder les regards qui les observent, et approcher ainsi le mystère, la puissance et la vulnérabilité des premiers moments de notre humanité, ouvrir quelques pistes autour de cette question. Comment rendre compte de l'expérience de celui qui ne peut en témoigner ? Premier cri, c'est le titre de ce livre, votre premier livre, Clémentine Goldzahl. Il a paru au Seuil et on vous retrouve pour en parler. Je voudrais qu'on commence par cette anecdote que je rappelais et par laquelle vous ouvrez vous-même le livre, le souvenir de cette mésinterprétation, si on peut dire, d'un son qu'émet votre propre enfant. Comment est-ce que depuis cette expérience, vous en arrivez, quelque temps plus tard, à choisir ce service, un service de néonatologie, pardon, pour aller enquêter ? Je vous pose cette question avec cette idée, c'est une question que je me suis posée en vous lisant. Après tout, des lieux d'observation de tout jeune bébé, il y aurait pu en avoir d'autres. Je ne sais pas, des maternités, il n'y en a pas tant que ça, mais des maternités, des centres de PMI, de protection maternelle infantile. Bon voilà, vous choisissez un endroit où les tout jeunes bébés, ils sont dans une situation très singulière puisqu'ils sont malades. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce choix-là ?
En fait, un petit peu par élimination. C'est-à-dire que quand tu as commencé à me trotter dans la tête l'idée de pouvoir regarder des nouveau-nés un petit peu sur le long terme, parce que c'est un passage très, c'est quelque chose de très élusif, en fait, ça dure pas longtemps. L'état que je décris dans le livre, qui est l'état des premiers jours de la vie. En fait, techniquement, médicalement, on est un nouveau-né pendant 28 jours, donc le premier mois de sa vie, en gros. Mais un nouveau-né qui va bien, à la maternité, justement, disons que si je m'étais implantée dans une maternité, les nouveau-nés vont bien, ils sont dans un berceau à côté de leur mère, ils restent pendant 3 jours à la maternité, et ensuite ils rentrent à la maison. Et je peux pas rentrer, moi, dans l'intimité des foyers des mères, et c'est des moments où la mère et les parents, en fait, et le cercle familial fait barrière aussi autour du nouveau-né, dans quelque chose de protecteur, ça devient un cocon. En fait, donc c'est assez inaccessible aux journalistes. Les centres de PMI, les bébés, on les amène pour les faire peser, pour leur faire des vaccins, pour les faire ausculter par un pédiatre, regarder. Mais ensuite, on les ramène chez soi. Et la particularité du service de néonatologie, c'est que ces bébés, ils restent et qu'ils sont enchaînés, en fait, un petit peu, malgré eux, évidemment, par leur pathologie, à cet état d'être d'extrême vulnérabilité qu'est le nouveau-né. Et j'avoue que je me l'étais même pas complètement formulée comme ça, mais que c'est quelque chose qui m'a énormément frappée en y allant, c'est que c'est des bébés qui, pour les besoins du soin, par exemple, restent tout nus, en couche pendant très longtemps. On leur met des bodys ou on les habille qu'à la fin quand ça va mieux parce qu'on a besoin que leur corps soit accessible. Et ils restent comme ça très disponibles et exposés au regard des soignants, mais du coup également au mien, sur un temps long.
Cette question du regard, elle est absolument centrale dans le livre. Je le disais pour commencer, vous cherchez un endroit où vous pourrez regarder ces très jeunes personnes pendant un long moment, mais vous ne cessez aussi de regarder les différents regards qui se portent sur eux dans cet endroit-là. Et ça m'a frappée en vous lisant l'espèce d'écho qu'il peut y avoir entre cette thématique du regard et la question de l'interprétation qui est au centre de cette anecdote. Il y a une histoire de lecture là-dedans, de regard qu'on porte sur un être et du langage, des signes qu'il émet et qu'on perçoit ou pas. Comment ça a résonné pour vous, ces deux questions-là, la question du regard, la question de l'interprétation ?
C'est complètement, effectivement, au cœur, en fait, parce que les nouveau-nés, les nôtres et ceux des autres, on les regarde beaucoup en essayant de les comprendre. Et là, dans un cadre médical, c'est des nouveau-nés qui sont sans arrêt observés, monitorés, qui sont même dans le regard médical, les transpercent même, puisqu'ils sont échographiés, radiographiés. Donc on regarde à travers d'eux pour essayer de comprendre quel mal les agite et comment les soigner. Et donc c'est vrai que je me suis beaucoup demandé quel était le poids de tous ces regards. Qu'est-ce que c'est que le regard d'une mère versus le regard d'un médecin? Qu'est-ce que c'est que le regard, mon regard à moi de journaliste sur ces nouveau-nés? Qu'est-ce que en fait quand on regarde, qu'est-ce qu'on prend aussi? Qu'est-ce qu'on leur vole de leur intimité? Parce qu'ils sont regardés malgré eux en fait. Évidemment, tous les nouveau-nés sont regardés et manipulés malgré eux, mais là, c'est dans des dimensions qui sont assez extrêmes. Et en retour, ces bébés nous regardent. Et ça, il y a quelque chose de très touchant, en fait, il y a une sorte de fulgurance, quoi, dans le regard des nouveau-nés, parfois, qui nous dit plein de choses, qui nous évoque plein de choses. Et le nouveau-né, vraiment, les minutes qui suivent l'arrivée d'un être humain au monde, quiconque a pu voir en photo ou en vrai le regard de ce bébé, qui est à moitié pas un regard, parce qu'en fait, il voit pas, il sort de l'eau, en fait. Mais ce que nous, en tout cas, on y voit, ce qui se passe dans cet échange-là, est absolument, c'est un vertige métaphysique quasiment, quoi. Parce qu'on a effectivement l'impression qu'il voit des choses que nous, on voit pas, que son regard nous transperce, nous traverse et nous convoque aussi. C'est un regard qui nous appelle et qui nous dit « occupe-toi de moi ».
Je voudrais qu'on entende la manière dont vous travaillez textuellement la matière d'observation qui a été la vôtre au cours de cette enquête. Clémentine Golzal, on va lire un premier extrait de votre texte. Elle est arrivée dans le service comme un boulet de canon, traversant les airs en hélicoptère depuis l'hôpital de Saint-Étienne. Escortée comme une invitée de marque, Fiona est au centre d'une procession de 4 personnes où chaque main a une fonction. Un tel pousse le pied sur roulette auquel sont suspendues les perfusions, l'autre s'assure que le scope suive le mouvement, un troisième avance en crabe, les deux mains glissées dans les fenêtres circulaires de l'incubateur pour maintenir en place le respirateur sur son visage. Sur le toit de la boîte en plastique transparente, une couverture isole le bébé des lumières vives des couloirs, tout en le protégeant des regards croisés sur le chemin du service. Par-dessus, des documents sont posés. Dans de grandes enveloppes Kraft marron et dans des chemises de couleur, toute l'histoire de sa jeune vie est consignée. Le lait de sa mère, conservé dans des biberons gradués fermés d'un capuchon jaune, l'accompagne dans une glacière. Ses quelques effets personnels, un doudou, une veilleuse, un t-shirt imprégné de l'odeur de sa maman, sont roulés en boule au pied de son petit matelas. Les nouveau-nés hospitalisés ne voyagent pas légers. Depuis l'annonce de son entrée, plus tôt dans la matinée, Fiona est attendue. Comme pour une cliente d'un hôtel de luxe, sa chambre a été faite, place nettoyée par l'équipe d'auxiliaires en charge des menus besogne, chariot de l'infirmière réapprovisionné. Mais avant d'être installée, Fiona n'est pas encore Fiona. Dans une liste de patients potentiels pour qui une place a été demandée dans le service de néonatologie de l'hôpital Necker Enfants Malades, entre la TGV d'Arpajon, le canal persistant de Senlis, la 25 semaines de Saint-Joseph et la cardiopathie de la maternité, elle est la rétinopathie de Saint-Étienne. À 79 jours de vie, Fiona arrive à Necker pour une opération des yeux au laser. C'est le tout premier chapitre de votre livre, Clémentine Golzal, qui s'appelle « Admission », avec l'arrivée très impressionnante de cette très jeune patiente, cette petite fille qui s'appelle Fiona. Ce pour vous interroger sur la construction de ce livre et cette scénographie qu'on va retrouver à différents moments du livre, qui revient en fait comme une forme de refrain finalement dans le livre. Le livre, il se construit avec l'arrivée successive de différents patients, arrivée au sens où ils entrent dans le service, mais aussi arrivée sous vos yeux à vous. Mmh. Et c'est à travers vos yeux à vous que nous, on découvre ce qui se passe là et qu'on le comprend aussi. On entend aussi dans ce passage la manière dont l'espèce d'opacité de ce qui se passe, qui est aussi, on le suppose, opaque pour vous au début, est progressivement dévoilée. Comment est-ce que, à quel moment vous vous êtes rendu compte que ce mouvement de l'arrivée des enfants dans le service allait pouvoir servir, oui, de ponctuation, de construction au livre?
Je sais pas si j'y ai réfléchi comme ça, en fait. Moi, j'étais dans le service tous les jours. Donc, quand je suis arrivée en cours de route, il y a des bébés qui étaient déjà là. Mais je me disais qu'il fallait que je commence, que je prête attention aux bébés qui arrivaient pour avoir l'ensemble de leur histoire dans le service. Et ce que je m'étais donné, moi, vraiment comme règle, c'était une unité de lieu. Mmh. C'est l'idée que les bébés, donc comme Fiona, comme on vient de lire le passage, arrivent dans le service. Et là, ils deviennent pour moi des sujets. Et au moment où ils sortent du service, quelle que soit la manière dont ils sortent, ils cessent d'être des sujets. Donc il y avait vraiment cette idée de rester sur ce temps-là de eux dans le service. Et ensuite, à mesure que j'étais là, plusieurs bébés arrivaient. Il y en a qui arrivent en fait pour des très courts séjours, qui viennent pour une intervention et deux jours après, ils sont repartis. Et il y en a qui s'attardent vraiment très longtemps, qui restent. Et donc, il se trouve que c'est ces bébés dont j'ai pu observer le séjour plus ou moins long qui sont devenus pour moi les sujets et les personnages, entre guillemets, les protagonistes en fait du livre. Donc c'était plus une raison technique et pratique.
Oui, mais c'est intéressant parce que vous employez ce mot protagoniste que vous avez utilisé aussi tout à l'heure quand vous disiez, on parlait du peu de représentation des bébés, des nouveau-nés en particulier dans la littérature, et vous disiez, moi je cherchais des récits où ils soient véritablement protagonistes. Oui. Ça veut dire quoi pour vous ce terme-là?
Ça veut dire que, en fait, je trouve que personnage c'est insuffisant, c'est-à-dire qu'on est tous... dans l'idée de qu'on peut faire de vous un personnage, il y a une appropriation, il y a un enjeu de pouvoir en fait, j'ai l'impression. Quand on fait de quelqu'un un personnage dans la littérature, il y a d'ailleurs c'est des enjeux qui se retrouvent souvent, ça peut poser des problèmes très importants. Et là, j'essayais moi en fait, je me débattais moi-même avec l'idée que ces bébés qui étaient donc des qui avaient du mal à exister en tant que sujet, qui étaient des objets médicaux, des objets pour leurs parents, qui étaient beaucoup racontés mais qui eux-mêmes ne racontaient pas, que moi j'étais encore une autre couche de récit surplombant sur eux. Et donc du coup, j'avais vraiment à cœur de raconter l'expérience, en fait, de raconter ce qu'ils traversent au plus près de leur expérience. Et donc, pour moi, ça, c'est ça, faire des protagonistes. Mmh. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent des choses. Voilà. Et pas que des personnages à qui l'on fait des choses. Voilà. Ils ont aussi, en fait, une agentivité, ces bébés. Et elle se joue, en fait, à des endroits extrêmement subtils, à des endroits bizarres, à des endroits inattendus. Elle est réduite.
Par exemple, parce que en même temps, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce autour de quoi votre récit tourne et ça génère une forme de tension, au sens de tension dramatique. Hein. Cette envie qu'on perçoit d'approcher l'expérience de ces enfants. Et en même temps, l'impossibilité à savoir véritablement ce qu'ils ressentent, ce qui par ailleurs est peut-être ce à quoi on est confronté vis-à-vis de n'importe qui. Enfin, je veux dire,
voilà, tous.
C'est la grande question du rapport à l'autre. Mais comment ça se... Quelles ont été pour vous les surprises là-dedans? Des moments où vous avez eu l'impression de pouvoir un petit peu toucher, approcher vraiment l'expérience de ces enfants?
En fait, j'ai compris, et mon envie aussi de me placer à un endroit aux côtés de soignants extrêmement qualifiés qui passent en fait leur vie, qui font beaucoup d'années d'études et qui passent leur vie à observer les bébés et qui savent lire en eux, comme moi je n'étais pas capable, c'est qu'ils sont eux à l'affût de signes qui moi m'échappaient complètement, voire de choses complètement contre-intuitives. C'est-à-dire que on s'imagine par exemple qu'un bébé qui a mal pleure. Bon, ça c'est en fait un bébé bien portant, quand on le ramène à la maison, quand il pleure, c'est qu'on nous, le pédiatre nous dit c'est soit qu'il a faim, soit qu'il a mal. En réalité, les nouveau-nés pleurent effectivement quand ils ont mal, mais quand ils ont trop mal, parfois, ils ne pleurent plus du tout, justement. Et donc, ça, dans le service, c'est très courant. Il y a des bébés qui sont anormalement silencieux, et c'est parce qu'ils sont, en fait, trop douloureux. Donc ça, en fait, c'est des choses, oui, complètement contre-intuitives, qui vont à l'envers de ce que nous, on considère comme une communication bien établie. Et je pense qu'il se met vraiment dans le chemin de notre compréhension des nouveau-nés, et qui... En fait, ce qui me touche aussi, c'est que ça s'est sûrement mis dans le chemin de la compréhension que nos parents et les gens qui nous ont aimés quand on est né ont eu de nous, en fait. J'ai été, moi, assez bouleversée par l'idée qu'on est tous, chacun d'entre nous, nés dans ce contexte d'avoir beaucoup de mal à nous faire comprendre et d'être entourés de gens qui, si tout va bien, nous aimaient, peut-être beaucoup, peut-être énormément, peut-être plus qu'ils n'avaient jamais aimé, mais que même, malgré ça, on essayait de leur faire comprendre des choses et qu'ils ne les comprenaient pas.
Oui, je me souviens qu'à un moment du livre, vous parlez de cette chose courante aussi, qui est que jusqu'à ce que l'enfant soit lui-même capable de parler, très souvent, les adultes, ses proches, voilà, les adultes qu'il rencontre, qui l'entourent, parlent de lui à la troisième personne, en sa présence.
Tout le temps.
Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'une manifestation dans le langage courant, d'une forme de problématique éthique qui est complètement au cœur de votre travail.
Complètement. Et ça, pour ça, en fait, pour m'éclairer un peu sur ça, j'ai été voir Alia Morgenstern, qui est une fabuleuse linguiste qui travaille sur le langage, comment le langage vient aux enfants et comment le langage se construit autour des enfants. Et elle a effectivement mis des mots assez concrets sur ça, sur le refus de la gentilité des enfants, sur le fait que parler d'eux à la troisième personne, c'est leur refuser le statut de sujet, de langage, et c'est les objectiver, en fait. À la troisième personne, on parle des choses, des animaux, mais c'est considéré comme insultant. Je veux dire, si vous ou moi, on est dans une pièce et qu'on dit « comment elle va Mathilde ?» à quelqu'un d'autre sans vous regarder, vous le prendrez mal et vous aurez raison, sans doute. Et les nouveau-nés ont fait ça tout le temps, en fait, les concernant. Et effectivement, ils n'ont pas vraiment de... Je ne sais pas, moi, peut-être qu'ils en ont rien à faire. Hein, peut-être que, par ailleurs, on y survit tous, donc ça va. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange dans la manière dont on traite ces petits humains et on les traite un petit peu, en fait, comme des animaux.
Sur la question de la façon dont les enfants et dont le bébé en particulier sont pris dans le langage, je vous propose qu'on écoute une psychanalyste, elle s'appelle Catherine Matelin-Vanier, elle a travaillé beaucoup auprès de nouveau-nés, c'était dans une archive de 2002 diffusée sur France Culture, un documentaire de Surpris par la nuit.
Bien sûr, le bébé ne parle pas, le prématuré ne parle pas, quoique, il n'y a rien de plus bavard qu'un bébé prématuré. Moi, j'ai appris ça en travaillant avec eux. Mais si vous voulez, on s'est mis à réfléchir à comment pouvaient travailler des analystes autrement qu'avec des sujets parlants, comme par exemple avec des enfants qui n'ont pas encore le langage, des enfants psychotiques, voire des enfants autistes. Et quand on travaille avec ces enfants-là, après, évidemment, c'est d'une certaine façon plus facile de travailler avec les bébés. On a l'habitude du travail sans qu'il y ait de mots qui soient prononcés. Mais ce qui est important de savoir, c'est que de toute façon, l'enfant, y compris le prématuré, est pris dans le langage. Vous voyez, la question n'est pas tant qu'il prononce lui-même des mots. La question est que le langage l'anime. L'anime au sens de le fait respirer. Hein. C'est vraiment ça qui nous fait vivre. C'est la façon dont nous, êtres humains, on est pris dans le langage.
Le langage l'anime au sens de le fait respirer, dit cette psychanalyste. Ça résonne avec avec l'expérience qui a été la vôtre dans ces 6 mois d'enquête.
Tout à fait. J'ai lu Catherine Vanier. Elle travaille en fait dans un hôpital parisien, dans un service de néonatologie auprès des très petits bébés. Et elle a écrit un livre formidable dont le nom là tout de suite m'échappe. Une psychanalyste auprès des nouveau-nés, quoi. Et où elle raconte des choses assez étonnantes, effectivement, de la manière dont le nouveau-né répond au langage. Et donc, elle travaille au chevet de ces tout petits bébés dont on a l'impression qu'ils sont parfois pas réactifs. C'est des bébés qui sont aussi sédatés, qui sont entravés dans leurs mouvements. Donc, en fait, déjà, le nouveau-né sain a du mal à s'exprimer, disons. Mais alors, le nouveau-né malade, qui est harnaché, arrimé, sédaté, c'est encore plus difficile. Et elle leur parle. Et elle voit de la manière dont le langage, en fait, les percute. On sait pas, en fait, et peut-être ne saura-t-on jamais exactement comment. Est-ce que c'est les mots? Est-ce que c'est l'intonation? Est-ce que c'est la voix humaine? Est-ce que c'est la voix de leur mère? Oui, sûrement, ça, on sait que ça a un effet même physiologique, en fait, sur leur corps. Mais donc, oui, ils reçoivent notre langage, et à la fois, moi, ce que je me suis raconté, mais ça, ensuite, il y a une dimension, évidemment, de fantasme, de ce qu'on projette sur ces nouveau-nés quand on passe du temps à leur côté. Mais ce que je me suis raconté, et qui était lié aussi à des espèces de pirouettes grammaticales que font les soignants, c'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, il a baissé sa satte, ou alors elle a fait un arrêt,
Elle se spasme sur son tube.
Il se spasme sur son tube. Elle s'est mise en hypoglycémie. Donc en fait, il c'est comme si il parle d'eux comme des comme d'athlètes qui pourraient eux-mêmes ralentir leur rythme cardiaque.
Comme si les affections physiques qui les atteignent dans cette situation où ils sont malades étaient l'objet d'une décision.
Ouais, exactement.
Comme s'ils étaient agents de ce qui leur arrive physiologiquement.
C'est très intéressant. Et ils le disent sans s'en rendre compte, c'est du jargon médical, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment interpellée. Et en fait, j'ai décidé de suivre ce chemin de pensée et de me dire, bon, et ben dans ce cas-là, évidemment, je ne dis pas du tout que c'est des nouveau-nés qui sont malades et ont subi la maladie, mais que dans le cadre du soin néonatal, ils ont quand même des ressources. Et par exemple, un nouveau-né dans un service de néonatologie, leur rythme cardiaque est tout le temps monitoré, donc ça bip quand c'est trop rapide ou trop lent. Et quand un bébé pleure, il fait augmenter son rythme cardiaque. C'est mécanique. Vous, si vous vous mettez à pleurer, votre rythme cardiaque va probablement augmenter aussi. Or, les pleurs des bébés en néonatologie n'appellent pas nécessairement les infirmières à leur chevet tout de suite, parce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses. En revanche, une machine qui se met à biper, un rythme cardiaque qui part en flèche, là, elles arrivent en courant. Donc c'est vrai qu'on se dit, bon, est-ce que le bébé pleure, comprend que le pleur va déclencher la machine et que là, quelqu'un va venir le voir? Je ne sais pas.
Dans les différents registres de langage que vous observez aussi, il y a aussi tout simplement le langage purement médical. On a l'impression, à vous lire, qu'il fait aussi l'objet d'une forme de fascination ou en tout cas de très grand intérêt de votre part, mais aussi en termes de plaisir d'apprendre une autre langue, quoi, de plaisir d'avoir accès à un langage. Nous sommes nombreux quand un médecin nous explique une maladie qui nous touche à ne rien comprendre à ce qu'ils nous disent, et on sent que vous avez un plaisir aussi à travers cette enquête à vouloir comprendre vraiment ce que les médecins disent au sujet de ces nouveau-nés. Est-ce que ça a été un moteur aussi pour vous dans cette enquête, apprendre le langage médical comme on apprend une langue étrangère?
Moi, j'adore la médecine depuis... Mon père est médecin, en fait. Et je me suis toujours un peu fantasmée médecin. Je pense que dans une autre vie, vraiment, j'aurais adoré être médecin. Donc, j'ai une vraie gourmandise de ce langage médical. J'adore l'assurance des médecins quand ils parlent. Je sais que ça irrite certaines personnes. Moi, j'adore ça. J'adore qu'ils aient une sorte d'infralangue. En fait, des médecins, vous pouvez les écouter parfois dans des réunions de spécialistes dans le service. Je les écoutais parler, mais je m'évadais comme si c'était de la poésie, quoi, quasiment. En fait, c'est des mots qui sont des enchaînements de syllabes que je ne comprenais pas. J'essayais de les assembler un peu comme des petits Legos, là, dans ma tête. Je les notais, mais souvent, je les notais mal dans mon carnet en me disant, je regarderais sur Google ce que ça veut dire. Et souvent, j'avais effectivement très mal compris. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui, on l'a dit, lit beaucoup, les mots, en fait, c'est mon travail. Moi, je suis journaliste, donc j'écris, je lis. Et de me retrouver comme ça dans un environnement où on parlait ma langue, le français, mais avec une dimension qui m'était inconnue, c'était extrêmement excitant, en fait, simplement.
Ouais. Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs, de lectrices qui lisent les ouvrages dont nous parlons. Je voudrais qu'on écoute la réaction de Sidonie, qui a lu votre ouvrage et qui vous adresse une question, Clémentine Goldsall.
Bonjour le Book Club, bonjour Clémentine Goldsall. J'ai lu récemment mon premier écrit, et ce que j'ai aimé, c'est cette alternance entre des passages très théoriques, où on apprend plein de choses sur la néonatologie, et puis d'autres passages vraiment poignants, où on découvre des parcours assez inimaginables pour ces petits bébés et leurs parents. Moi, je suis orthophoniste et j'ai plusieurs patients, ados et jeunes adultes, qui sont nés prématurés. C'est un élément de dossier que j'ai bien en tête, mais je crois que je ne mesurais pas réellement l'impact que peut avoir une naissance prématurée. Et la lecture de Premier Cri, ça m'a bien remis les idées en place à ce sujet. Donc, je vous remercie, Clémentine. Et vous évoquez à plusieurs reprises dans votre livre la difficulté de trouver votre place dans ce lieu où il y a déjà énormément d'adultes qui gravitent autour des bébés, où tout le monde est très occupé, très préoccupé. Ça m'aurait intéressé de savoir justement comment vous avez fait pour faire comprendre votre présence et pour trouver votre place justement pendant ces mois d'observation à Necker. Merci d'avance pour votre réponse et puis bravo encore pour ce travail passionnant.
Et merci à vous, Sidonie, pour cette question. Clémentine Goldsall, la question de votre place au sein de ce service, de votre présence, elle est exprimée, elle est formulée dans le livre. Comment vous avez fait ? Demande Sidonie.
Je voudrais juste dire, Sidonie est orthophoniste et effectivement, les orthophonistes, c'est des gens qui, une fois que ces bébés dont je parle dans le livre sortent du service, La grande prématurité, ça induit souvent des problèmes de neurodéveloppement et c'est des orthophonistes ensuite en ville qui doivent les suivre. Il y en a pas assez et les consultations de suivi pour les bébés.
Il y a une pénurie d'orthophonistes assez dramatique en France.
Ouais. Les consultations de suivi pour les bébés à Necker sont compliquées parce qu'on dit aux parents allez voir un orthophoniste et ils disent mais ça met un an le rendez-vous. Enfin bref, donc vive les orthophonistes. Et pour trouver ma place, en fait, ça a été moi je suis journaliste donc je suis à la fois critique littéraire mais je fais aussi des reportages pas mal quand même notamment. Pour le magazine du Monde. Et donc, moi, toute seule, avec mon stylo et mon carnet dans un environnement où je dois me faire petite, c'est quelque chose qui ne m'est pas complètement étranger. Et par ailleurs, c'est un peu aussi une cape, c'est une sorte de costume de super-héros qu'on endosse quand on est journaliste, où on est là avec sa fonction. Dans le service, ensuite, il y avait une question ergonomique, c'est-à-dire que c'est un service qui est trop petit, avec des chambres, avec plusieurs berceaux. Tous les professionnels voudraient qu'il y ait des chambres individuelles, mais il se trouve que c'est des chambres avec 2, 3, parfois 4 bébés, beaucoup de matériel et beaucoup de soignants. Donc, ils sont vraiment tout le temps, tout le monde est tout le temps à l'étroit. Donc, j'ai trouvé des petits coins, quoi, vraiment, où me mettre.
Concrètement, vous vous mettiez
entre le lavabo et la poubelle,
en général. C'est ça, dans les petits coins de la pièce. Et concrètement, vous dites, j'étais avec mon carnet de notes. C'est ça votre outil principal, c'est les notes que vous prenez sur le coup. Et après, dans un deuxième temps, il y a un travail à partir de ces notes, d'écriture aussi du souvenir.
Ouais, c'était des notes. J'ai aucune mémoire, moi. J'oublie tout. Donc, je prenais des notes. On avait convenu avec le chef de service que je ne ferais pas d'enregistrement pour des raisons de confidentialité. Donc oui, je prenais des notes, j'avais mon stylo, je prenais des notes et comme j'ai en plus je suis vraiment une très mauvaise journaliste, j'ai une écriture illisible, donc tous les soirs en fait je retranscrivais mes propres notes à l'ordinateur et ensuite comme des choses qu'on a vécues et ça comme quand on lit un livre on prend des notes et ensuite un mot, deux mots, trois mots suffisent à faire ressurgir le souvenir.
La mort, elle est assez omniprésente dans cette enquête, Clémentine Goldzahl, et dans ce livre du même coup. Mais elle est présente d'une manière assez inattendue aussi, me semble-t-il, pour le lecteur néophyte qui ne connaît pas les problématiques de la néonatalité. Quand on commence votre ouvrage, on se dit que la mort, ça va être ce contre quoi tout le monde est mobilisé, les soignants en tout premier lieu, ce contre quoi les équipes médicales luttent pour maintenir, à sauver les bébés de la mort qui les guette, maintenir les nouveau-nés en vie. Et pourtant, il y a plein de moments où elle arrive avec un autre visage ou une autre problématique, si je puis dire. C'est-à-dire que parfois, vous racontez aussi plusieurs cas où la mort, elle peut être aussi ce vers quoi il faut aller pour soulager, paradoxalement, le bébé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont ça est apparu, tout simplement, sous vos yeux ? Est-ce que c'est des choses dont vous avez été surprise ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des bébés qui naissent dans les hôpitaux et donc à l'hôpital Necker et dont on sait qu'ils ne vont pas survivre. Donc notamment des mères à qui on a proposé une interruption médicale de grossesse en disant « votre bébé a une pathologie très grave, incurable, à laquelle il ne survivra pas » et la mère, pour des raisons qui lui sont propres et intimes, a le droit et le fait, dit « non, moi je veux rencontrer mon bébé ». Donc là, il parle d'accompagnement. Donc c'est des bébés qui naissent et dont on sait que le travail du service, ça va être de les accompagner justement jusqu'à la mort, qui peut intervenir dans les heures, les jours, voire ça peut durer quelques semaines. Et ensuite, il y a des bébés qui sont nés, qui sont arrivés dans le service et dont au bout de plusieurs jours, semaines ou pareil, mois de traitement, on arrive dans des impasses thérapeutiques. Et là, il y a ce qu'ils appellent des staffs éthiques, qui sont des réunions, c'est très encadré, c'est encadré notamment par la loi Claeys-Leonetti. Il y a les spécialistes de tout l'hôpital Necker se retrouvent, avec des spécialistes de l'extérieur aussi, la psychologue du service, l'assistante sociale, les infirmières qui se sont occupées du bébé. Et il arrive que soit prise la décision d'arrêter les traitements actifs, c'est-à-dire de suspendre les ventilations, la nutrition parfois, pour que ce bébé dont on a compris qu'on ne pourrait pas le sauver ou auquel on ne pourrait pas garantir des conditions de vie dans le futur qui soient acceptables pour la société, les soignants et les parents, parce que les parents sont très mis au... sollicités en fait pour ces décisions-là, on décide, oui, aussi de les accompagner. Et c'est un processus qui peut être assez long. Et une des choses, effectivement, qui m'a surprise, c'est que ces bébés dont on se dit tout le temps qu'ils sont tellement fragiles mettent parfois du temps, en fait, à mourir. Et sont là aussi, parfois, on imagine un dialogue avec les parents qui les accompagnent. Et tant que la famille n'est pas prête, il arrive que le bébé vive.
Et cette enquête qui partait de l'envie d'observer le nouveau-né, elle devient aussi, par la force des choses et par l'endroit où vous avez choisi d'enquêter, une réflexion sur la mort au-delà de la mort qui est très spécifique de ce tout jeune nouveau-né, mais une réflexion sur...
Mais ça, moi, il me semble que c'est une idée que j'avais, alors vraiment avant même la néonatologie, c'est que moi, j'ai un enfant, mais quand j'étais enceinte, je pensais beaucoup à moi je pense tout le temps à la mort en l'occurrence, mais quand j'étais enceinte, j'y pensais particulièrement beaucoup parce que je me mettais à y penser pour moi et pour le bébé qui allait naître. Une fois encore, je sais pas, je disais au début de l'émission, j'ai lu beaucoup moi sur la Shoah, et puis j'ai peut-être lu trop de Stephen King et de Maupassant, mais moi la venue au monde de mon enfant, c'était aussi sa venue à la possibilité de la mort. Ça m'est apparu instantanément en fait. Faire vivre quelqu'un, c'est aussi accepter que ce nouveau-né peut mourir. Et c'est un grand choc en fait, je crois, pour quiconque devient parent. Et donc, c'est effectivement spécialement présent dans le service parce que c'est très, très concret. Mais en réalité, c'est la vérité pour chacun de nous et pour chacun de nos bébés.
Vous citez à un moment du livre une étude publiée en 2022, je crois, dans la revue scientifique de Lancet, qui tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la santé des nouveau-nés en France. Je complète les chiffres que vous citez dans le livre par ceux que j'ai trouvés dans un livre enquête qui vient de paraître, signé des journalistes Anthony Cortès et Sébastien Lurquin. Et ça a paru aux éditions Buchet-Chastel et ça s'intitule 4,1%. Le scandale des accouchements en France, 4,1, c'est le taux de mortalité infantile dans notre pays, 4,1 décès pour 1000 naissances. Et les journalistes, les auteurs de ce livre, précisent alors qu'en 1994, la mortalité infantile était de 6 pour 1000 et qu'elle était descendue en 2011 à 3,5 pour 1000. Elle est désormais repartie à la hausse et dans une proportion que l'on pensait ne plus connaître, 3,9 pour 1000 en 2023, 4,1 pour 1000 en 2024. Je voulais citer ces chiffres parce qu'ils figure de manière concrète, même si ces taux sont bien sûr historiquement bas, le fait que la mortalité infantile progresse dans notre pays dans des proportions très inquiétantes. Et même si l'explication de ces chiffres, elle tient à plusieurs facteurs, on ne peut pas faire le lien en vous lisant entre ces chiffres et la crise que connaît l'hôpital public en France, que vous rencontrez au cours de votre enquête, que vous décrivez. Vous parlez notamment de ce problème énorme qui est celui de la difficulté à recruter des infirmières, du manque d'infirmiers, d'infirmières qui poussent parfois, obligent parfois à fermer des lits parce qu'on n'a pas assez de soignants pour maintenir le nombre de lits existants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont tout ça est apparu pour vous, sujet qui est quand même... Je ne sais pas comment dire, on a l'impression que dans votre enquête, ça arrive de manière de plus en plus forte quoi, sous vos yeux. Et en tout cas, pour nous lecteurs, c'est comme ça qu'on le reçoit.
Oui, parce que c'est omniprésent en fait, tous les jours à l'hôpital. L'hôpital Necker, c'est un hôpital c'est un hôpital de pointe, c'est un des plus gros hôpitaux pédiatriques d'Europe. Le service de néonatologie est un service extrêmement qualifié, qui prend en charge des pathologies extrêmement rares. Et pourtant... effectivement, des lits sont fermés. Il arrivait avant que des lits soient fermés pendant l'été, par exemple. Et maintenant, des lits sont fermés toute l'année. Or, en fait, ce que j'ai vite compris, parce que tous les matins, dans les différentes unités du service, les soignants se retrouvent pour faire le point sur qui on a, qui peut sortir, qui veut rentrer. Donc, il y a un flux comme ça, perpétuel. Et ça, c'est une crise quotidienne, pluricotidienne. C'est, on a un bébé qui est là, qui doit venir chez nous parce que on est les seuls à pouvoir lui prodiguer tel soin. Comment on va faire? On n'a pas de place. Pas de place. Tout le temps, ça revient. On n'a pas de place. Est-ce que lui, on peut le faire sortir? Oui, mais c'est limite. Donc, il arrive qu'il y ait des bébés, en fait, qui sont pas complètement en état de sortir, qu'on pousse un peu vers la sortie, alors que les médecins le font, mais le cœur fendu. Il arrive qu'il y ait des femmes qui doivent accoucher, dont on dit, attends, on va la faire accoucher demain, parce que demain, peut-être qu'on aura un lit. On en est là, en fait, en France, aujourd'hui, dans un système de soins qui est encore, qui garantit des soins à la fois extrêmement, d'abord qui sont gratuits, gratuits et puis qui sont d'excellente qualité. Et en même temps, la crise est là tous les jours pour la place.
C'est l'une des prises de conscience que produit aussi la lecture de ce livre. Mais l'heure tourne, le Book Club continue. 15h50, comme chaque jour, dans cette émission, on fait un peu de place à la littérature jeunesse. Et c'est vous, Raphaël Botte, qui venez nous en parler aujourd'hui. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Raphaël, vous êtes journaliste, vous aussi, vous suivez ce domaine littéraire depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'un album documentaire scientifique, c'est donc assez sérieux. Son titre, Une île est née, de Virginie Al-Jajadi, Caroline Pellissier et Manon Dimmer. Il a paru aux éditions Saltimbanque.
Alors, on pourrait le présenter comme un simple documentaire, donc un album qui délivre un savoir, mais aussi, préciser, un album documentaire narratif et scientifique. Il raconte la naissance d'un écosystème à des enfants de 5-6 ans, et il investit donc un sujet assez ambitieux. Et si j'emploie le verbe « raconter », ce n'est pas pour rien. Il fait partie de ces livres documentaires qui renouvellent le genre. Alors, commençons par exemple par le titre « Une île est née ». Le ton est donné, c'est pas un classique « tout savoir sur les îles volcaniques ». Non, c'est « une île est née ». Et là, l'aventure peut commencer. La couverture présente un paysage maritime, de nuit, et au milieu de ce bleu sombre, jaillit une explosion. C'est le sommet d'un cratère qui apparaît. Là, ce sont les faits qui se sont déroulés il y a un peu plus de 60 ans. Ce bout de terre apparu, c'est l'île de Surtsey, un caillou noir et volcanique qui fait moins de 2 km². Ce livre raconte son histoire, jour après jour, et parfois heure après heure. 14 novembre 1953, premier jour. Au petit matin, quelque part dans l'océan Atlantique, au sud de l'Islande. 7h30, la mer bout. Une fumée sombre s'élève. Un volcan sous-marin s'est réveillé. 15h, une île est née, là, juste à la surface.
Ça me donne envie d'aller en Islande. On entend, Raphaël, que le texte est à la fois très sobre et en même temps très précis.
Exactement, et cette concision a même quelque chose d'assez fascinant en le lisant. Elle fait aussi la part belle aux illustrations de Manon Dimmer, qui mêle une approche naturaliste à une approche éminemment poétique et sensible grâce à un travail sur les couleurs, sur les textures, sur les cadrages qu'elle choisit. C'est vraiment, on voit ces projections de lave, les nuées de fumée, il y a des plans larges, des zooms resserrés. Aujourd'hui, cette île, c'est un sanctuaire. Quelques jours par an, une poignée de chercheurs a le droit de s'y rendre en suivant un protocole sanitaire drastique. Là, ils consignent l'apparition de la vie. Un peu comme des photos, les illustrations ont des coins arrondis et elles deviennent un peu les preuves de leurs observations. Alors, il y a une grive vue pour la première fois le 16 avril, une mouche en mai, ou encore un phoque aperçu sur la plage le 7 juin 1964. Et puis, le 3 juin 1965, une plante est identifiée. Un caquilier, mais il ne survit pas. Rien n'est acquis, rien n'est prévisible. La vie arrive par touche, se fraye un chemin, s'étouffe, meurt, réapparaît.
C'est très en écho avec le sujet de notre émission aujourd'hui. Ce sont autant de rebondissements, si je vous suis bien, Raphaël, tout cela. Est-ce qu'il y a quelque chose d'épique alors dans cette naissance d'une île ?
Mais tellement épique, il y a énormément de personnages, des fulmars, des guillemots, une colonie de mouettes, des insectes. En fait, Caroline Pellissier et Virginie Al-Jajadi, les deux autrices, ont réalisé une enquête en se plongeant dans les notes des scientifiques. Ces notes, elles sont conservées au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et leur carnets ont permis d'établir le déroulé de cette histoire. Et le rythme des mots, leur musicalité, les dates, les heures, tout participe à faire récit. Mais surtout, entre les faits scientifiques et la force de la narration, il y a une place pour que l'imagination de l'enfant se faufile. Cet album, il est vraiment source d'émerveillement et cet émerveillement nourrit une sensibilité au vivant. Cette démarche documentaire se passe de toute pédagogie autour du fameux petit geste empreint de culpabilité et se passe de tout discours anxiogène ou moralisateur. Une île est née est un album très fort. Juste pour conclure, bien sûr, cette approche de texte narratif en soi, ce n'est pas inédit. Dans la longue histoire du livre documentaire jeunesse, au tout début du XXe siècle, la Suédoise Elsa Besko racontait déjà dans un album intitulé « Le costume neuf du petit Paul » l'histoire de la confection d'un vêtement en passant par la découverte des métiers. Mais depuis quelques années, des documentaires narratifs comme ça et scientifiques se multiplient. Ils affinent une voie, une démarche. Je vous conseille par exemple « 1 million d'huîtres au sommet de la montagne ». C'est une autre réussite du genre pour découvrir l'histoire des fossiles sous forme d'un carnet de géologie. Ou encore « Chasseur de glace » qui retrace la vie au bord du lac Baïkal d'un petit garçon qui s'appelle Yuri et de son père qui ravitaille les foyers en eau douce. Ces ouvrages ne font pas leçon, ils ne sont pas didactiques et renvoient vers d'autres connaissances. Ils font appel à la notion de savoir, suscitent de la curiosité, soulèvent des questions. Ils investissent à leur manière un champ passionnant, offrant une lecture autant informative que sensible. Ils font littérature et en cela, Il rentre vivant.
Et il nous donne plein de bonnes idées de lecture à partager avec les enfants qui nous entourent. Merci beaucoup Raphaël. Une île est née est le titre de l'album documentaire dont vous avez parlé. Il est publié chez Saltimbanque Éditions. Toutes les autres références sont à retrouver sur le site de la chronique Lecture Jeunesse, également sur l'appli Radio France. Et en fin d'émission, comme chaque jour, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales grâce aux suggestions que vous nous envoyez. Si vous repérez dans vos lectures, Clémentine, merci de jouer, un passage de texte qui cite un extrait musical, faites-en une petite photo, envoyez-la nous via le compte Instagram du Book Club ou via le mail lebookclub@radiofrance.com. On y pioche chaque jour, on pioche dans cette liste de passages collectés, un passage pour nous quitter en chanson. Et aujourd'hui, on remercie chaleureusement Louise qui a repéré un passage, on ne peut plus à propos de ce livre dont nous avons parlé au cours de cette émission, Le bébé de Marie Darrieussecq, paru en 2002 chez POL, qui tourne autour de cet être étrange et fragile qui lui donne son titre. Il comprend ce qu'on lui dit. Tu vas avoir ton biberon. Il salive. Si l'on se contredit en différant son repas, parce qu'il a une crotte de nez à nettoyer d'urgence, parce qu'il lui faut un bavoir pour ne pas tacher ses beaux habits, ou parce que le biberon est trop chaud, il proteste avec véhémence. Phrase magique, « tu peux dormir » lui fait parfois fermer les yeux. « Ton papa va rentrer » peut le faire patienter. « Tu es le plus beau des bébés », il se rengorge. Quel royaume a notre gentil dauphin ? Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, si, Vendôme là, Vendôme. Très tôt, il a fait la différence entre la parole et les chansons. Les trois premières notes lui font lever les sourcils. Il sourit, puis il rit aux éclats. Très grand merci Clémentine Colzal d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre Premier Cri. Il a paru aux éditions du Seuil et puis dans un tout autre registre. Je signale aussi que vous signez la préface de la réédition de l'autobiographie de la comédienne Eddie Lamar aux éditions Séguier, elle s'appelle Ecstasy and Me. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck, au son Valentin Bobinet. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Louise Hoth, Léa Weissgruss, Oriane Mignot, Marianne Chassor, Jeanne Aléos et Alexandra Lai-Begovic qui veille sur le compte Instagram de l'émission où nous poursuivons la conversation. Cette émission se réécoute sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.